réplique La France en morceaux avec Jérôme Fourquet et Jacques Lévy. Dans sa fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?», prononcée à la Sorbonne, le 11 mars 1882, Ernest Renan a proposé la définition suivante. « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. » L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage indivis. À lire les ouvrages de Jérôme Fourquet, L'archipel français, et celui coécrit par Jacques Lévy, Théorie de la justice spatiale, on est conduit à se demander si nous sommes encore une nation au sens que Renan donnait à ce terme. Telle est en tout cas la question que je voudrais poser à mes deux invités. Si l'on parle-t-on de vivre ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas pour masquer, par l'incantation, sa disparition? Que reste-t-il, dans la France de 2019, du désir de continuer la vie commune dont Renan parlait comme d'un plébiscite de tous les jours? Jérôme Fourquet.
Si on se base sur les données de sondage, puisque je travaille à l'IFOP, on constate que, par exemple, la fierté d'être français est encore quelque chose qui est extrêmement partagé par nos concitoyens à plus de 80%. Donc il y a quand même un attachement toujours à cette nation française, mais le sous-titre de mon livre est le suivant, Naissance d'une nation multiple et divisée, puisque sans doute un certain nombre de phénomènes qui permettaient de créer du lien et du ciment entre les différents groupes constitutifs de la nation, eh bien, un certain nombre de ces ciments se sont délités ou ont disparu au cours des années. Alors il reste encore pas mal de forces de rappel, des choses en commun. On peut parler de la langue, on peut parler également d'une histoire commune, des institutions, de notre modèle aussi de protection sociale. Alors sans doute, historiquement parlant, quand Renan écrit cela, la question du modèle social ne lui était pas venue à l'esprit, mais l'état social a été énormément étoffé. Tout ça constitue quand même une base commune. Néanmoins, le rapport à la nation et la façon de vivre en tant que citoyen ou patriote a incontestablement énormément évolué. Je terminerai par l'allusion à laquelle vous faisiez référence en utilisant le terme de vivre ensemble. Des journalistes ont essayé de retracer la généalogie de cette expression. Ils en trouvent une première trace dans les propos de l'ancienne maire socialiste de Dreux, en 1983, donc c'est la fameuse ville qui s'est fait connaître avec la première percée électorale du Front National sur un problème d'apparition d'une société locale qui était multiculturelle avec une très forte immigration. Et donc c'est intéressant de voir que ce terme de vivre ensemble, il daterait de ce moment historique précis. Et donc ça nous amène un petit peu sur le fil de notre entretien.
Bon, très bien, j'aurais des questions à vous poser, mais d'abord Jacques Lévy.
Oui, c'est sûr que la France a changé, c'était une société qui essayait d'unir des éléments qui étaient encore largement communautaires, et elle le faisait par un principe lui-même communautaire qui était celui de l'État, c'est-à-dire le nationalisme, le patriotisme, qui fonctionnait aussi comme une communauté. Et aujourd'hui, je suis assez proche de l'analyse de Norbert Elias de ce point de vue-là, on est plutôt dans une société des individus, ce qui ne veut pas dire que les individus renient leur appartenance à la société, mais ils y adhèrent, on pourrait dire, en tant qu'individus, et ils n'adhèrent pas forcément qu'à une seule société. Ils sont aussi de leur pays, ça c'était déjà le cas, de leur petit pays, ils sont aussi de leur région, ils sont aussi européens, ils sont aussi parfois habitants du monde. Et puis par ailleurs, les communautés qui étaient fédérées en fait par l'État, comme les communautés religieuses, même si c'était conflictuel, eh bien, elle se délite très fortement. Donc, on a l'émergence d'un groupe social de base qui est l'individu. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de changements si on ajoute le fait que la relation avec l'État, elle a profondément changé puisque c'était une relation tragique, en fait, celle de la fin du 19e siècle. Hein, l'appartenance à la France s'est faite aussi dans le sang avec l'événement fondateur, à mon avis, qui est la guerre de masse à partir de 1792 et un type d'échange entre la société et l'État qui est on vous donne notre sang et vous nous donnez la démocratie et l'État-providence. Quelque chose qui s'est fait progressivement. Aujourd'hui, là encore, les choses ont profondément changé. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Bien sûr, c'est bien de comparer ces deux situations. Ce qu'il faut éviter, c'est de comparer le mythe que se racontait la France autrefois à la réalité de la France d'aujourd'hui.
Était-ce vraiment un mythe ? Il y avait quand même une certaine conscience de l'identité nationale qui s'est manifestée notamment pendant la guerre de 14-18 de façon tragique mais effective. Simplement, vous dites, et je voudrais que nous poursuivions la discussion sur ce sujet, vous dites, Jacques Lévy, que nous vivons dans une société des individus. Or, l'un des problèmes de notre société, me semble-t-il, c'est l'émergence, ou comme aime à dire Jérôme Fourquet, la montée en puissance du communautarisme, des revendications communautaires. Et là, je voudrais vous soumettre deux citations. La première de François Hollande, qui était sans doute un meilleur observateur que président, en tout cas. Les confidences qu'il a fait à Davé et l'Homme témoignent d'une certaine acuité, et notamment, il dit ceci, « Comment peut-on éviter la partition ? Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. » Et, beaucoup plus tard, Gérard Collomb, que vous citez vous-même, Gérard Fouquet, au moment où s'opère la passation des pouvoirs avec Christos Castaner, il dit « En France, il y a un séparatisme, il y a des quartiers qui sont sous la loi des narcotrafiquants et des islamistes. Aujourd'hui, les Français vivent côte à côte. Demain, ils pourraient vivre face à face. » Alors voilà, je voudrais vous soumettre ce double diagnostic à l'un et à l'autre. Jérôme Fourquet, pour commencer.
Alors, effectivement, on a des phénomènes de fragmentation dans cette société d'individus que décrit Jacques Lévy, parce que je pense que c'est quand même le fondement premier. On peut revenir ensuite sur la montée du communautarisme dans certains territoires ou dans certaines enclaves de la République française, mais le premier phénomène, c'est effectivement le développement de l'individualisme et son rapport au collectif, hein, qu'on soit issu ou non de l'immigration. On a tout un développement dans le livre sur ce que j'ai appelé la sécession des élites, hein, c'est-à-dire que comment aujourd'hui arrive-t-on à faire société et nation commune dans un modèle qui met comme primat absolu l'épanouissement de l'individu, hein, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa condition. Sur cette base-là, cette montée en puissance de l'individualisme a abouti à la dislocation de toute une série de piliers ou de silos. Jacques Lévy parlait du poids des religions. Alors, il y en avait deux grandes en France. Il y avait la religion catholique et puis il y avait la religion laïque. C'était, donc, tout cela a été arasé ou très fortement démantelé. On avait également, sur les quartiers dont vous parliez, une influence très forte d'une autre église qui était l'église rouge, l'église communiste, qui structurait en profondeur des pans entiers de la société. Tout ça a été démantelé, il n'y a pas eu de grand plan préétabli, mais avec les transformations sociales et la montée en puissance de l'individualisme, on a, si vous voulez, réinitialisé le tout, et donc on est sur un espace qui est beaucoup plus plan aujourd'hui et beaucoup plus morcelé. Sur cette base-là, les individus, dans certaines conditions, se réagrègent sous des nouvelles formes, de nouvelles communautés. Alors, certaines sont affinitaires ou d'origine. Et donc là, on a par exemple, la thèse que je défends notamment, c'est que nous sommes de facto aujourd'hui dans une société qui est multiculturelle, du fait de les conséquences d'un phénomène migratoire que la France connaît depuis une cinquantaine d'années maintenant. Le point d'aboutissement, c'est une société qui est multiculturelle. Et dans certains quartiers, ces revendications communautaires associées à une dégradation des conditions de vie, des conditions économiques et sociales et le développement aussi d'une économie parallèle aboutissent effectivement à ce qu'un ordre différent de celui de la République se soit installé. De ce point de vue-là, quand en 2005, pendant des semaines et des semaines, les banlieues de France et j'allais dire, et de Navarre, c'est-à-dire de toute la France, pas uniquement de Seine-Saint-Denis brûle, on voit bien l'état de fracturation qui traverse notre corps social. Mais dans certains quartiers qui présentent pourtant toutes les caractéristiques de banlieues difficiles, il n'y a pas eu d'incendie parce qu'il y avait un ordre qui est parallèle, qui était suffisamment puissant pour tenir ces quartiers. Donc c'est de mon point de vue une réalité évidente. Maintenant, je pense qu'il c'est qu'une partie de la société française. Et pour rebondir sur ce que disait le ministre Collomb au moment de son départ, passer du côte à côte, face à face, c'est pas forcément l'hypothèse qu'on pourrait privilégier de manière purement cynique, dans le sens où on est une société d'individus et se mettre face à face ou contre, hein, c'est-à-dire aller au conflit, tout ça a un coût, tout ça est douloureux, tout ça est dangereux. Et donc, ce qui peut nous guetter peut-être plus sûrement que une guerre communautaire ou une balkanisation, une libanisation de la société française, c'est que la société française se transforme en un énorme syndic de copropriété. C'est-à-dire que chacun vivrait dans son appartement avec la conscience que les autres vivent différemment, mais qu'on a quand même en commun l'entretien de l'immeuble à assurer, et que ce serait plus coûteux de partir en guerre contre son voisin de palier.
Oui, ça c'est vrai qu'il y a une... un rapprochement finalement de la description que faisait Tocqueville de l'Amérique, en ce sens que les sondages ou les enquêtes montrent qu'il y a une réelle satisfaction d'une grande majorité de Français de leur vie personnelle. Ils sont malheureux pour leur société, mais heureux pour eux-mêmes, très largement. Et ce contraste est intéressant. Il montre que il ne faut pas sous-estimer la capacité de la société civile à s'auto-organiser, ou plutôt que ses composantes s'auto-organisent avec une relative indifférence vis-à-vis du monde commun que le politique incarne. Cela dit, c'est pas pour nier tout ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des forces de fragmentation, mais moi je voudrais introduire justement un autre élément pour le comprendre, et ce qui permet aussi de comprendre les banlieues de trafic qui ne sont pas à proprement parler communautaires. Il suffirait de dépénaliser le cannabis pour dégonfler complètement cette bulle, et donc ça, tous les spécialistes...
Si on dépénalise le cannabis...
Ça créera du chômage.
Mais ça te créera un très fort chômage, ouais. Parce que vous chiffrez à 200 000 ouais. Le nombre de gens aujourd'hui qui en ville.
Ouais. Je m'appuie sur des travaux de sociologue.
Oui, la moitié en
Seine-Saint-Denis. Mais je fais le parallèle historique avec l'activité de faux-sonnage. Voilà. Dans certaines campagnes de l'Ouest, campagnes pauvres en marge de la Bretagne, où il y avait justement cette gabelle qui s'appliquait et qui ne s'appliquait pas. Et donc, pour aller dans le sens de Jacques Lévy, on voit que on se crée des activités sur un vide ou sur un manque. C'est-à-dire que là, on a tout un monde parallèle qui s'est structuré.
Oui, mais si le cannabis est légalisé, ce qui poserait quand même un certain nombre de problèmes de santé publique, peut-être sera Patrion.
Oui, peut-être. Les spécialistes de la santé publique considèrent que ça irait mieux s'il était dépénalisé.
D'accord. Admettons qu'il soit dépénalisé, bien d'autres drogues seraient mises en vente. Il y aurait la cocaïne, il y aurait le crack. Enfin, on peut aussi s'interroger sur ce qui se passerait dans ces quartiers si en effet un certain nombre de personnes étaient mises au chômage. Est-ce que là précisément la peste séparée d'aujourd'hui ne serait pas remplacé par des affrontements beaucoup plus durs. Donc,
je prenais l'exemple du cannabis pour introduire une temporalité historique qui interagit avec celle que vous avez signalée, qui est en fait l'effondrement du monde ouvrier. C'est-à-dire le fait que la reproduction de l'être ouvrier qui touchait à la fois des Français de souche et des migrants, de façon finalement assez comparable, cette reproduction, elle s'est interrompue. En gros, aujourd'hui, quand on est d'origine ouvrière, soit on bascule dans une situation très très défavorable, de perdant, soit on monte une marche pour accéder à un groupe moyen. Et en fait, cette fracture, elle traverse aussi les groupes originaires de pays étrangers. Hein, donc c'est très clair aujourd'hui, ça se voit dans la société, dans la partie la plus visible de la société, avec les gens qui sont originaires du Maghreb, qui apparaissent dans le groupe moyen, mais aussi dans le groupe supérieur, alors qu'une autre partie n'y arrive pas. Et donc cherche des solutions de remplacement du type trafic de stupéfiants. Or, ça, on le voit aussi chez les Français, enfin chez les Français d'origine française plus ancienne, c'est-à-dire soit les strates de migrants qui sont arrivés avant, soit même des gens encore plus anciennement français, comme par exemple l'ensemble des bassins miniers, qui n'arrivent pas à rebondir malgré des subventions considérables. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faut analyser ce qu'a été le groupe social des mineurs, un groupe extrêmement endogame, très peu poreux vis-à-vis du reste de la société, et malgré l'appui de subventions économiques massives, en fait, une nouvelle culture économique et sociale et culturelle n'a pas pu émerger. Et donc, je pense que toute notre lecture des communautarismes, qui sont d'ailleurs peut-être plutôt en régression à l'échelle mondiale, enfin, ça peut se discuter en tout cas, qui montre des résistances incontestables, mais doit être aussi placé à travers le filtre de mouvements d'ensemble du système productif qui, bien sûr, sont traduits parfois par l'activation de ressources communautaires.
Quand vous parlez du système productif, Jacques Lévy, vous semblez laisser entendre que l'économie est déterminante en dernière instance.
Et non, c'est pas ce que j'ai voulu dire.
Bah, peut-être pas, mais alors justement, on va lever cette ambiguïté. Oui. Je vais vous citer un propos de Jean-Luc Marion dans un livre Brève apologie pour un moment catholique, parce que l'un des paradoxes de notre temps, c'est que la société se déchristianise, vous l'avez très bien montré, Jérôme Fourquet, mais qu'en même temps, le catholicisme est très vivant sur le plan politique. Il y a eu la manif pour tous, il y a eu Sens commun, il y a eu le fait que François Fillon serait peut-être président de la République s'il n'avait eu ses ennuis judiciaires, et il a proclamé « Je suis chrétien ». Et il y a aussi la vitalité intellectuelle du catholicisme, avec des penseurs aussi importants que Jean-Luc Marion, que Pierre Manant, que Rémi Braque, par exemple. Mais alors justement, il dit « Il se pourrait que la supposée réalité économique ne soit pas la réalité, mais une de ses superstructures. » Une de ses superstructures, pardon. « Il se pourrait que l'économie, qui ne voit d'ailleurs à quel point les performances économiques d'un pays dépendent de sa culture, de ses mœurs et de son éthique. » Et c'est peut-être à cela qu'on a affaire, à une insécurité culturelle grandissante qui est à la racine du séparatisme territorial dont nous sommes aujourd'hui les témoins, c'est-à-dire que des Français d'origine française et des immigrés anciens quittent les quartiers sensibles ou difficiles, ceux de la nouvelle immigration, comment analyser ce séparatisme territorial? Jacques Lévy, vous dites dans votre livre que la justice spatiale peut consister dans la mixité. Mais justement, est-ce qu'on peut décréter cette mixité? Qu'est-ce qui s'y oppose aujourd'hui en France? Jérôme Fourquet, si vous voulez, et Jacques Lévy.
Oui, bien sûr.
Effectivement, cette question de la mixité, elle se pose de plus en plus dans une société qui devient, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, multiculturelle. C'est-à-dire que l'obsession du dénombrement, du comptage, c'est un symptôme de la montée de l'existence d'une société communautaire. Dit autrement, quand une société devient multiconfessionnelle ou multicommunautaire, ce qui compte pour les individus, c'est le rapport de force ou l'équilibre démographique dans le territoire dans lequel ils habitent ou ils évoluent. Suis-je majoritaire ou minoritaire ? Dans une société qui est beaucoup plus homogène démographiquement, ces problèmes ne se posent pas. Il y a des problèmes économiques, de pouvoir d'achat, de justice spatiale, mais les thèses de Jacques Lévy sur la justice spatiale sont tout à fait stimulantes. Il y a aussi effectivement à intégrer cette dimension de séparatisme culturel et de volonté à tous les étages de se sentir suffisamment nombreux pour que les règles non écrites du vivre ensemble soient les vôtres. Par exemple, quels sont les types de commerces que nous allons rencontrer? Quelles sont les pratiques vestimentaires qui sont tolérées dans l'espace public? Tout ça compte énormément. Et donc, toute une partie de la société française, dans certains endroits, pas partout, se met à regarder la composition du public qui va fréquenter l'école de ses enfants, qui peuple sa cage d'escalier ou qui fait ses courses dans le même marché que soi. Et donc, ceux qui en ont les moyens ou qui sont les plus sensibles à ces questions, eh bien, adoptent des stratégies résidentielles plus ou moins élaborées. Donc, on a en tête le contournement des cartes scolaires, par exemple, mais aussi un vieil adage qui venait de la période de l'existence du mur de Berlin pendant la guerre froide, quand on disait qu'en Allemagne de l'Est, les gens votaient avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils quittaient le système communiste. On peut aussi appliquer cette sentence à ce qui se passe dans un certain nombre de territoires où des gens votent avec leurs pieds. Ça fait longtemps que Jacques Lévy et moi-même travaillons sur, par exemple, le développement du vote Front National dans les zones périurbaines situées à bonne distance des quartiers de grands ensembles. Il y a toutes ces logiques également qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, je n'opposerais pas culture, identité à économie. Je pense que toutes ces forces interagissent et jouent. C'est pour ça que je parle à un moment de kaléidoscope dans cet archipel français. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de fracture multiples qui
Oui, ce que je voulais simplement dire, c'est que le social ne se réduit pas à l'économique.
Non.
Nous n'avons pas simplement les pauvres et les riches.
Non, non.
Puisque les pauvres, justement, ont des stratégies très différentes selon leur appartenance.
Voilà.
C'est ça que je voulais dire.
Typiquement, quand on analyse, par exemple, les résultats électoraux, si vous analysez uniquement les résultats de commune à commune en fonction du taux de chômage ou du revenu moyen, il y a toute une partie de la réalité sociologique de ces territoires qui vous échappe et qui ne vous permet pas, par exemple, de comprendre pourquoi, à peu près à un niveau social identique, une commune va voter très fortement pour Jean-Luc Mélenchon et une autre beaucoup plus pour le Rassemblement National, parce qu'il faut introduire d'autres éléments d'analyse, dont notamment les appartenances réelles ou supposées ou activées de ces publics.
Oui, je crois que ce que vient de dire Jérôme Fourquet est très important. Et en effet, il ne faut pas se tromper sur le mot culture. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire que la dynamique sociale, en général, s'appuie beaucoup sur la culture. Mais je prends le mot culture dans le sens de France Culture. C'est-à-dire une capacité de réflexivité, une capacité de comprendre le monde, une capacité de s'ouvrir au monde. Et donc, j'irai même encore plus loin que votre citation. Je pense qu'aujourd'hui, le capital culturel, qui n'est pas seulement le capital scolaire, hein, mais cette capacité à s'ouvrir au monde pour y trouver sa place, en acceptant de se changer soi-même par cette exposition à l'altérité qui est constitutif de la culture, c'est aujourd'hui la force productive principale. Et c'est bien là le problème de personnes comme les Gilets jaunes, qui, si on regarde leur capital économique, ne sont pas forcément en bas de l'échelle. En gros, leur revenu médian est assez proche du revenu médian de la France. En revanche, ce qu'on peut dire, là, les auditeurs vont avoir du mal à comprendre ce que je dis, mais je le montre avec mes doigts, le rapport entre capital économique et capital culturel, il est très important. Et même s'il se déplace, c'est-à-dire même si le niveau général monte ou baisse, s'il y a toujours plus de capital économique que de capital culturel, là, il y a un problème. Et c'est ce dont les Gilets jaunes se sont confusément rendus compte. C'est-à-dire qu'ils sont des perdants parce qu'en fait, ils n'ont pas la martingale qui leur permet de progresser dans la société. Et ils ont l'impression que ceux qui, justement, arrivent, et Emmanuel Macron, pour eux, en est un bon symbole, et ils ne se trompent pas là-dessus, ceux qui arrivent à combiner capital culturel et capital économique, eux réussissent davantage. Donc je pense qu'il faut avoir une vision globale. Quand je disais système productif, je ne parlais pas seulement des usines et du capital économique, je parlais au fond de la disposition de la société au développement.
Oui, mais vous définissez la culture comme une certaine capacité de comprendre le monde, et dans le livre que vous avez coécrit avec Jean-Nicolas Fauchil et Anna Povoas, il est écrit que certains optent pour la séparation, le chacun pour soi, ceux effectivement qui ne veulent pas s'ouvrir au monde, qui ne veulent pas le comprendre. D'autres ont la capacité de choisir le mélange et la mixité, ce qui fait que vous distinguez même l'allophilie de l'allophobie. Mais là, je ne suis pas sûr de tout à fait partager votre analyse, Jacques Lévy, parce que ceux qui choisissent la voie du séparatisme le font, comme l'a écrit Christophe Guillouis, souvent parce que dans certains quartiers, ils ont perdu la guerre des yeux. En tout cas, ils ne se sentent plus les bienvenus, ils ne se sentent plus chez eux. Et d'autres qui contournent l'arcade scolaire et qui refusent la mixité dans les écoles le font pour le bien-être, et pas simplement le bien-être, pour le bénéfice de leurs enfants. Parce que dans ces écoles où ils ne veulent pas mettre leurs enfants, le désordre règne, la violence, quelquefois des sentiments anti-français ou anti-juifs. Et d'ailleurs, Ce qui est très intéressant, c'est que certains partisans de la mixité jouent un peu carte sur table. J'ai sous les yeux le livre de François Dubé, Marie Durubella, 10 propositions pour changer d'école. Il dit une politique visant à créer des écoles plus mélangées, donc éventuellement de justice spatiale, eh bien, se justifie du point de vue de l'intérêt général, mais risque de se heurter à des intérêts privés divergents. Parce que les parents de milieux favorisés perçoivent bien que les établissements où ils sont majoritaires permettent à leurs enfants de meilleures progressions et une expérience scolaire plus positive. Le défi est de parvenir à les convaincre, renoncer à une partie de ces avantages, parce que le gain que les plus défavorisés retireraient de plus de mixité sociale serait bien plus important que ce qu'ils y perdraient, avec à la clé une avancée globale en termes de capacité à vivre ensemble pour les jeunes d'aujourd'hui et les adultes qui seront demain. Donc voilà le nouveau marché de l'école. Oui. Vous vivrez mieux ensemble et peu importe si vous perdez en termes de transmission, alors que l'école républicaine doit permettre à chacun d'être tout ce qu'il peut être. Donc vous voyez, la mixité à ce prix, je trouve que ça pose énormément de problèmes, Jacques Lévy.
Là, vous interprétez légèrement ce que vous avez cité de François Dubé, parce que ce qu'il dit, c'est que finalement, ils seront gagnants. Alors effectivement...
Ouais. Gagnants en termes de vivre ensemble.
Non, mais aussi, justement, en termes culturels, tout est dans les seuils. Hein, parce que là, les études, en France, on a un système d'études avec l'ADEP de l'éducation nationale qui nous permet d'avoir des approches très fines et qui permettent de comprendre que quand il y a une vraie mixité, c'est-à-dire que, justement, l'ensemble des catégories sont représentées, mais les catégories supérieures, et je dirais en particulier celles qui viennent de milieux à haut capital culturel, n'ont pas grand-chose à craindre. En fait, hein. Là encore, d'ailleurs, ceux qui ont le plus peur, c'est ceux qui ont un décalage entre capital économique et capital culturel. Et donc, en fait, c'est aussi lié aux injustices de l'école, parce que l'école n'aide pas beaucoup en France à la mobilité sociale. Donc, si vous avez par ailleurs des possibilités de croître culturellement dans votre famille ou autour de votre famille, vous allez considérer plutôt comme un plus. Jusqu'à un certain point, le fait d'être confronté à des gens différents de vous. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que le cas des bobos peut être pris en général, pour l'école comme pour le reste. C'est des gens qui considèrent qui pourraient habiter dans des quartiers bourgeois homogènes. Mais le deuxième bohème, c'est qu'ils considèrent que, pour leur propre bonheur personnel, c'est mieux d'habiter dans des quartiers mixtes, donc avec effectivement des limites. C'est surtout la mixité dans l'espace public, mais personne ne demande qu'il y ait une mixité dans l'espace privé, hein, et donc avec les limites qu'on vient de voir sur l'école. Mais néanmoins, si les bobos n'existaient pas, alors chacun serait dans son coin. Et donc, c'est là que je suis un peu réticent sur il va nous répondre, sur l'idée de Jérôme Fourquet, selon laquelle ce seraient les élites qui feraient scission. Moi, je pense que le risque, c'est plutôt que les perdants, que les démunis, et notamment les démunis culturels, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, aient une approche scissionniste, parce que, en fait, contrairement au monde ouvrier de l'époque industrielle, de l'ère industrielle, le monde ouvrier, c'était des perdants, mais qui étaient persuadés qu'ils étaient absolument nécessaires et qu'un jour, ils seraient les gagnants. Les Gilets jaunes, ils savent qu'ils sont les perdants et ils ne voient pas du tout d'issue. Donc, le risque de sécession, en emportant son morceau d'État-providence avec soi, puisque ça, c'est quand même un acquis qui aussi fait différence avec l'ère industrielle, c'est ça, à mon avis, le risque, parce que évidemment, il y a les bourgeois décrits par Pinson-Charlot, qui sont une espèce d'ethnie du 16e arrondissement, mais ça, c'est plus la bourgeoisie dynamique. Hein. Donc, je pense que les bobos sont justement beaucoup plus en prise avec la composante créative du système productif, et eux, ils n'ont pas spécialement envie de faire sécession.
Ouais, ils n'ont pas spécialement envie non plus de s'établir en Seine-Saint-Denis. Ben, ils s'établissent dans le 11e, éventuellement dans le 18e ou dans le 20e, parce que quand même, bon, là, c'est encore possible. Mais oui. Jérôme Fourquet.
Cette idée d'archipélisation, donc il y a un dépend de ce processus, et c'est celui auquel Jacques Lévy faisait référence, c'est-à-dire ce que j'appelais la sécession des élites, mais il ne porte pas seul la responsabilité. Ce mouvement de repli ou de développement d'un entre-soi, on peut l'observer dans toutes les strates de la société française. Donc on a parlé d'un certain nombre de quartiers communautarisés, mais on l'a aussi dans des catégories populaires issus ou non de l'immigration. Je parle notamment d'un phénomène d'autonomisation de ces catégories populaires qui ne regardent plus ce qui se passe en haut de la société comme étant un modèle à suivre. Et je prends par exemple l'exemple fameux des prénoms, avec le fait que beaucoup de ces milieux populaires, sans être dans la caricature absolue, mais les statistiques et les cartes le montrent, ont opté dans les années 90 jusqu'à récemment pour des choix par exemple de prénoms de type anglo-saxon qui n'ont jamais été donnés dans le haut de la pyramide sociale et qui... Là, on est dans une rupture de fond, hein, puisque il y avait là aussi une théorie du ruissellement qui s'appliquait historiquement aux prénoms, qui étaient d'abord donnés en haut de l'échelle sociale et puis qui descendaient ensuite. Donc ces catégories populaires, ne serait-ce que par cela, mais on le voit aussi dans le vote, hein, mais on regarde la carte du vote Front National et la carte des prénoms anglo-saxons qui sont donnés, elle est quand même assez similaire et on voit... Jordan Bardella, donc tête de liste du Rassemblement National qui porte ce prénom. Steve Briouat, qui est le maire frontiste de Hénin-Beaumont, qui porte aussi un prénom anglo-saxon. Donc, c'est des exemples. On en a aussi beaucoup d'exemples dans les Gilets jaunes. Hein, donc, on voit bien ces phénomènes de fracturation. Juste pour revenir quand même sur la question des bobos, ils acceptent sans doute, pour beaucoup, d'habiter dans des quartiers mixtes.
Ils le souhaitent, ils le recherchent,
mais il y a quand même des stratégies d'évitement scolaire,
évidemment.
Puisque le capital culturel, là, je vous rejoins complètement, est primordial à leurs yeux, et donc la transmission pour les enfants est quelque chose qui est non négociable. Et alors parfois, donc il y a un argumentaire, j'allais dire, concessif, en disant c'est à notre corps défendant, la mort dans l'âme, que quand le dernier est rentré en sixième, on a été obligé de le mettre dans le privé. Et là, on est aussi sur on revient sur un phénomène qu'on indiquait tout à l'heure, ce phénomène de déchristianisation. Il est très avancé dans la société française, mais le monde catholique a de très beaux restes, notamment tout un secteur éducatif puissant et très bien implanté sur le territoire, sauf que aujourd'hui le recrutement dans ces écoles se fait de moins en moins sur des bases ou des motifs confessionnels et de plus en plus sur des motifs culturels. Et donc, du coup, tout ça participe à ces phénomènes de sécession ou d'autonomisation.
Alors, un mot sur les Gilets jaunes, nous y reviendrons tout à l'heure. C'est vrai, vous avez parlé de ces prénoms, Dylan, Brian, Jordan, Kevin. Et puis, il faut que l'une des principales figures des Gilets jaunes, qui a un compte Facebook, s'est surnommé Flyrider. Il s'agit du désormais très célèbre Maxime Nicole, et c'est une des surprises d'ailleurs de ce mouvement, c'est-à-dire on a pu penser que c'était des cutéreux enracinés qui s'en prenaient à une élite hors sol. Or, ils sont, et vous le montrez d'ailleurs Jérôme Fourquet, par anticipation de votre livre, ils sont mondialisés aussi,
oui, d'une certaine manière.
Par le tatouage. Ils sont branchés sur la world culture aussi. Donc c'est comme si on avait affaire à l'intérieur de la France à un choc de mondialisation.
Voilà.
La mondialisation des élites, qui fait dire notamment à Raphaël Glucksmann qu'il se sent plus chez lui à Berlin qu'en Picardie, et la mondialisation peut-être un peu plus pauvre, je ne sais pas, en tout cas, du peuple du périurbain. Mais avant d'en revenir aux Gilets jaunes, un dernier mot sur une autre forme de sécession possible, celle des Français de fraîche date, celle des nouveaux arrivants. Parce que leur désir d'intégration peut être remis en cause, notamment à la lecture de votre livre, Jérôme Fourquet, quand on apprend, et ça a été abondamment commenté, que 18% des prénoms donnés à des nouveau-nés en 2016 sont des prénoms musulmans, et que ça monte à 40% de cette année, ou à 25%, je crois, dans la région PACA.
Voilà.
Bon, donc, et ça, c'est un phénomène extrêmement, si vous voulez, révélateur, et peut-être préoccupant, parce que sévit aujourd'hui, les statistiques le disent, une discrimination au prénom musulman. J'ai dans le livre d'un collectif qui s'appelle « Histoire de l'islamisation française », eh bien, on fait référence au test Diouf. Vous connaissez sans doute. On envoie 3 CV de candidats du même âge, de même compétence, mais avec 3 profils différents. 2 avec le patronyme africain Diouf, dans un cas avec un prénom chrétien Marie, et dans l'autre, avec un prénom musulman, Khadija. Troisième candidate, Aurélie Ménard. Khadija Diouf est ostratisée, avec un taux de réponse à ses envois de CV de 8%, Marie Diouf, 21%, Aurélie Ménard, 25%. Presque autant pour Marie Diouf qu'Aurélie Ménard. Donc, s'il y a une discrimination au prénom musulman, on le sait, on s'en fiche. Comme si l'affirmation identitaire prévalait sur le désir d'intégration. Ça, c'est une forme de séparatisme, voire de sécession, qui peut inquiéter aujourd'hui en France. Et ensuite, les Gilets jaunes.
Je suis d'accord avec vous. Ce qui est intéressant dans les prénoms, et c'était une très bonne idée de la part de Jérôme Fourquet d'étudier ce matériau très riche, c'est que à la fois, on voit un recul du communautarisme d'État qui imposait les prénoms, en fait, qui obligeait les étrangers qui arrivaient à prendre des prénoms français. Donc, il y a une explosion qui est typique de la société des individus du nombre de prénoms, et y compris parmi, d'ailleurs, des prénoms pouvant être classés comme musulmans. Moi, je connais des gens qui n'ont rien de musulmans ou d'arabes, qui ont appelé leur fille Nour. Nour, ça veut dire lumière, et les lumières existent aussi dans la culture arabe, sans jeu de mots. Et donc, il y a ce côté cosmopolite et individualiste, et de l'autre côté, en effet, ce risque de néo-communautaire de la part de personnes qui sont sceptiques, finalement, sur le bénéfice qu'il y a à entrer en société, enfin dans la société commune, hein, donc qui ont une vision d'une société à somme négative ou nulle. Et mais en même temps, ce que montre un des passages que j'ai préféré dans le livre de Jérôme Fourquet, c'est quand il montre qu'il y a des choix d'habiter, par exemple, dans le centre ou dans les banlieues un peu ghettoisées, et que notamment les filles font le choix d'habiter dans des zones plus mixtes, et que c'est un moyen, c'est un levier pour elles d'ascension sociale, et on voit bien comment ça peut marcher, hein, donc en caricaturant les garçons qui vont rester dans la cité et qui vont être tentés par le trafic de stupéfiants ou d'autres activités parallèles, et la fille qui réussit mieux à l'école et qui va rentrer, qui va coller au groupe moyen. Et donc, il me semble que là, on voit la responsabilité de l'ensemble de la société, et notamment du politique, qui tient quand même une partie des manettes de la mixité, pour faire que ces jeunes filles, et puis bien sûr aussi les jeunes garçons, et cette ressource pour pouvoir profiter de la mixité pour fabriquer finalement une société qui va profiter à tous. Donc ce que je veux dire, c'est que les choses sont ouvertes, et c'est la responsabilité à la fois des citoyens et plus particulièrement des institutions politiques, de faire en sorte que ça marche. Il ne faut pas non plus surestimer ce qui existait de mixité dans les phases précédentes. Je veux dire, l'immeuble haussmannien à la Zola, bien sûr, ils sont obligés d'habiter dans le même immeuble parce qu'il n'y a pas la mobilité. Hein, donc la mobilité a permis d'une certaine façon à chacun de vivre soit son idéal de mixité, soit son idéal de séparation. Et c'est pour ça d'ailleurs que les cartes électorales sont extraordinairement parlantes, puisque les gens ont beaucoup plus choisi qu'avant où ils habitaient. Mais donc, il ne faut pas idéaliser ce qu'était la société du 19e siècle.
Jean Fourquet.
Alors, sur la question des prénoms, plusieurs choses. Jacques Lévy parlait du cas des jeunes filles qui, si on veut utiliser une expression, sortent du ghetto. Mm-hmm. Hein, donc, qui réussissent davantage scolairement et donc, du coup, ensuite professionnellement. Et on constate souvent donc, des choix de stratégie résidentielle de quitter ces quartiers-là et aussi de mise en ménage souvent avec des conjoints qui ne sont pas issus du même groupe démographique. Et quand on regarde sur les listes électorales, quand on arrive à faire des trajectoires, on constate que dans ces couples mixtes, le choix des prénoms va souvent être en faveur de prénoms de type plus européen, alors que même les couples mixtes dont le conjoint est issu de l'immigration continuera de privilégier plutôt des prénoms arabo-musulmans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce que disait également Jacques Lévy, l'extraordinaire diversification du nombre de prénoms retenus par les Français, avec un génie sans limite des parents, hein, puisqu'on invente tous les jours de nouveaux prénoms pour être sûr que son enfant ne sera le seul à porter. On n'est plus du tout dans la transmission. Hein, on va donner juste quelques chiffres. Jusqu'en 1945, donc de la Révolution française à 1945, la France a fonctionné avec une palette d'à peu près un stock de 2000 prénoms différents. On est monté à 3000 prénoms différents donnés dans les années 60. Nous sommes maintenant à 13 000, sachant que les 13 000 prénoms n'intègrent pas 50 000 enfants qui sont mis de côté par l'INSEE et qui sont classés dans la catégorie dite des prénoms rares, c'est-à-dire des prénoms qui ont été donnés au mieux deux fois dans l'année. Alors, pour les auditeurs, il y a 760 000 naissances en France, donc 380 000 de garçons, 380 000 de filles, pour faire vite. Et donc, les parents ont été capables de donner un prénom qui sera au mieux donné une autre fois sur 380 000 naissances dans l'année. Donc là, on voit bien que cette volonté de se distinguer est très forte. Cette volonté de distinction, elle existe dans tous les groupes sociaux et culturelle. On voit par exemple que le nombre de prénoms qu'on peut classer comme étant arabo-musulmans a aussi extraordinairement augmenté.
Oui, il n'y a pas que Mohamed, quoi.
Oui, et avec des innovations. Hein, c'est-à-dire que on rajoute un H, on met des trémas, on met un E, on a aussi une tendance à, dans ces familles, donner des prénoms qui sont moins typés que par le passé, alors qu'ils sont toujours rattachés à cette culture, mais qui sont moins typés. Dernier point, enfin, concernant ce que vous avez dit, qui est extrêmement frappant, c'est-à-dire que ce choix réitéré des familles issues de l'immigration de la première, de la deuxième et de la troisième génération pour donner ce type de prénom, alors même qu'ils expérimentent dans leur vie, si ce n'est quotidienne, en tout cas dans leur parcours de vie, que le fait de porter ce prénom est aujourd'hui encore très stigmatisant pour trouver un emploi ou trouver un logement. Alors il y a deux explications à cela qui ne sont pas contradictoires. La première, une volonté tout à fait compréhensible humainement de rattacher ses enfants à une histoire familiale ou culturelle. Et donc là, on voit qu'on n'est plus dans un modèle assimilationniste qui était aussi puissant que par le passé, qui imposait, j'allais dire un peu au forceps ou au chausse-pied, des choix de prénoms. Et puis, il y a une autre lecture qui est moins optimiste, mais qui il faut la regarder en face. C'est, on a parlé de Elias tout à l'heure, on pourrait citer aussi maintenant Erwin Goffman, le retournement de stigmate, en disant la société telle qu'elle existe aujourd'hui nous stigmatise parce que nous portons ce type de prénom, eh bien, nous assumons ce choix d'ostraciser en réitérant ce type de pratique et de comportement.
C'est un cercle vicieux, parce que c'est pas que la société stigmatise, c'est peut-être l'idée que avec ce prénom et ce nom, il y a une forme d'affirmation identitaire qui risquerait de poser des problèmes à l'intérieur de l'entreprise, du cabinet d'architecte ou d'avocat. Donc il peut y avoir une inquiétude de ce type, parce que ça peut induire des comportements incompatibles avec les mœurs régnant majoritairement dans ces lieux.
Ça peut être le cas, mais si on se place du point de vue des familles qui reçoivent ces réponses sur les CV et autres, eh bien, on a pu se dire, en logique, vous avez d'autres groupes issus de l'immigration, je pense notamment à l'immigration asiatique, qui de manière très pragmatique fait des prénoms français. Alors même si à la maison, on peut avoir un deuxième prénom d'usage qui va être issu de la
culture. En Asie d'ailleurs.
Qui est rattaché à cette culture, mais de manière très pragmatique, ces familles, très fortement, font ces choix-là. Autre élément, peut-être, pour rester sur la question des prénoms, et juste un instant, quand on regarde les vagues migratoires passées, notamment l'immigration polonaise, on a parlé des bassins miniers tout à l'heure, le Pas-de-Calais, on voit l'émergence de prénoms polonais sur les registres de l'état civil dès 1919, quand ces Polonais arrivent dans les mines, et en l'espace de 25 ans, ces prénoms disparaissent de l'état civil, au même temps que se mettent en place les mariages mixtes dans ces milieux-là. Donc, il y a une force intégratrice à un moment qui n'est plus de mise aujourd'hui, mais on va revenir sur ce que disait Jacques Lévy tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait le plein emploi et qu'il y avait aussi une dynamique économique qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui.
Et qu'on a fabriqué un groupe fermé qui aujourd'hui est très mal adapté pour relever les défis des changements de la société et de l'économie. Hein. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des éléments qui peuvent être positif à un moment donné et qui s'inverse. Et on voit aussi aujourd'hui des régions, je sais pas moi, la Vendée, c'est presque un mythe, mais une région qui a été meurtrie dans son identité pendant deux siècles et qui, grâce à ça, donc inversion de stigmate, a réussi à fédérer des appartenances de telle sorte qu'elle est assez productive. On la cite comme exemple d'une région non métropolitaine qui réussit bien. Donc il n'y a pas de fatalisme, je dirais,
Il n'y a pas de fatalisme, mais il y a peut-être quelque chose qui relève du choc des cultures ou des civilisations. Il est clair, par exemple, que l'Europe s'est longtemps identifiée à l'universel et qu'aujourd'hui, l'Europe est requise par les peuples qui la composent, redécouvrir sa particularité et de défendre ses frontières. Et je pense qu'il n'est pas tout à fait juste, pour utiliser votre mot, de flétrir cette inquiétude sous le nom de retour des années 30, même si les dérives populistes sont toujours possibles. Mais là, je voudrais en venir au gilet jaune, pour le temps qui nous reste. Parce que je pense que ce mouvement voulait aussi, au départ, réparer une injustice, en effet. Elle est exprimée, cette injustice, dans un livre déjà ancien de Christophe Guillouy, Frature française. Il parle d'une étude comparative sur les investissements publics dans le quartier de Haute-Noue à Villiers-sur-Marne et un quartier de la périphérie de Verdun. À Haute-Noue, les investissements ont été massifs et la réhabilitation prévoyait une dotation de 12 450 euros par habitant, tandis que le contrat de ville mis en place dans les quartiers de Verdun n'alloue que 11,80 euros par habitant. Et là, tout d'un coup, la France périurbaine, la France périphérique a dit non, on existe aussi, devenons visibles. Alors, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Et puis, la deuxième chose, ça, c'est une question que je voudrais vous poser, Jacques Lévy. Comptez-vous, parmi les injustices spatiales, l'enlaidissement de tant de régions et de villes, parce que Pierre Vermeren vient de nommer dans un article du Débat le rouleau compresseur de l'aménagement communal avec ses voies rapides, ses rocades et ses hideuses zones commerciales. Il dit que rares sont les régions qui ont su garder leur âme, le Pays Basque, l'Aveyron, certaines communes de Bretagne, le Périgord noir, les châteaux de la Loire, les vignobles bourguignons ou alsaciens. Pour le reste, les maires, eh bien, ils ont donné à tour de bras des permis de construire pour des hangars métalliques, des zones commerciales. Ils ont déshabillé les centres-villes, vidé ceci de leur commerce, etc. Donc, que penser de cela? Et les Gilets jaunes ne témoignent-ils pas aussi de ces vies sociales et de ces existences individuelles affectées par un environnement défiguré et privé de toute considération esthétique? Jacques Lévy.
Oui, alors il y a deux questions assez distinctes dans votre question.
Oui, mais c'est la dernière fois que je parle.
La première sur l'esthétique. Je pense la démarche que nous avons adoptée dans notre livre Théorie de la justice spatiale, c'est de pousser jusqu'au bout l'idée procédurale qu'avait lancée John Rawls, c'est-à-dire l'idée que le juste ne se décrète pas. C'est la société qui décide ce qui est juste et ce qui suppose une commensuration permanente des priorités, parce que tout peut être considéré comme juste dans l'absolu, mais en pratique, il faut choisir ce qui est le plus impérieux. Et donc, seule la démocratie, et notamment des démocraties pas seulement électorales, des processus permanents de commensuration, qui sont pas du tout faciles, justement, dans une société d'individus, permettent de dire à un moment donné, pas forcément le consensus, mais au moins de tracer des plans de conflit eux-mêmes légitimes. Donc sur l'esthétique, je renvoie ça à la démocratie. Je pense que les maires, malheureusement, parce que je crois que je partage un peu ce jugement à titre personnel, les maires ont fait ce que demandaient leurs administrés. Ils n'ont pas été en rupture avec leurs administrés. Donc et notamment la périurbanisation un peu chaotique de la France s'explique aussi pour une grande part par la fragmentation des pouvoirs communaux. C'est-à-dire le fait que les maires aient un pouvoir de peuplement alors que souvent ils ne sont qu'un petit morceau d'un grand ensemble, ça a fait qu'ils étaient eux-mêmes en concurrence entre eux pour savoir qui allait attirer le maximum de lotissements. Donc c'est aussi les ronds-points, les voies rapides, c'est aussi la conséquence de cette diffusion chaotique des nouveaux peuplements. Donc voilà, alors ça c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, quand vous citiez Christophe Guillouy, je viens de lire un rapport très très précis et complet de la Cour des comptes sur l'état des financements de services publics sur l'ensemble du territoire, et globalement, ce que dit Christophe Guillouy n'est pas vrai. C'est-à-dire que en gros, si on appliquait un principe de démocratie sur le financement, c'est-à-dire si en gros chaque habitant générait la même quantité d'aide, de subvention, on aurait une situation qui serait beaucoup plus favorable aux zones densément peuplées. En gros, que ce soit dans l'école, la gendarmerie, les services publics, les endroits qui sont peu peuplés ont globalement plus. Simplement, ça commence à se discuter. Parce que d'abord, on constate que les endroits où il faudrait vraiment agir, on n'agit pas. Hein. C'est-à-dire que l'État est un acteur en pratique de l'échec scolaire, en mettant en Seine-Saint-Denis, qui est la plus grosse poche d'échec scolaire de France, moins d'enseignants qualifiés, des enseignants plus précaires et des enseignants qui ont moins d'expérience. Et ça, c'est pas volontaire, c'est simplement le système du mouvement des enseignants. Donc, la première chose à faire, ça serait que l'État ne soit pas lui-même un contributeur à l'échec scolaire. Donc, je pense qu'on va de plus en plus discuter des priorités de justice, et à ce moment moment-là, on va mesurer, ça va être complexe, mais je pense qu'il va falloir le faire.
Jean Fourquet.
Alors, pour revenir sur les gilets jaunes, et aller dans le sens de Jacques Lévy, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce soulèvement a concerné d'abord ce que j'ai appelé la France de l'étalement urbain.
Oui.
La France de l'étalement urbain, la France des ronds-points, il y a tout un écosystème qui s'est développé, alors qui est, là encore pour reprendre des formules de Jacques Lévy, en partie le périurbain subi, c'est-à-dire qu'avec le phénomène de métropolisation, toute une partie des classes moyennes ou des catégories populaires sont obligées d'aller se loger plus loin, mais c'est aussi un périurbain choisi, dans la mesure où, et là pour revenir sur le pouvoir des maires, le choix toujours très préférentiel de beaucoup de nos concitoyens, le choix de résidence, c'est le pavillon avec un jardin. Et donc, ce phénomène-là a abouti au développement massif des lotissements, mais donc aussi des voies rapides, des ronds-points, des zones de dégagement pour pouvoir desservir toute cette France-là. Et ce qui est en train de se passer, si on essaye de mettre ensemble toutes les pièces du puzzle, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler un mouvement de démoyennisation. Alors que c'est un terme un peu barbare, c'est-à-dire que dans les années 70, on a toute une partie des catégories populaires et des classes moyennes qui se sont intégrées à la société française par le fordisme et par la société de consommation. Et ce modèle est en train de craquer pour plusieurs raisons. D'une part, la hausse des prélèvements obligatoires, donc qui rend les pouvoirs d'achat moins importants, disponibles moins importants. Deuxièmement, le fait que dans une société qui se désindustrialise, la qualité des emplois proposés dans ces milieux-là est moins intéressante que par le passé. Donc on n'est plus sur des jobs précaires, on est dans du tertiaire, dans de la logistique. Beaucoup de salariés de la logistique étaient sur les ronds-points. Et puis, troisième élément et non des moindres, le phénomène de ce qu'on pourrait appeler le must-have, ce qui est nécessaire d'avoir, s'est considérablement rehaussé en quelques décennies. On prendra le cas des smartphones, l'aménagement de la maison. Et donc toute une partie des petites classes moyennes sont plus en capacité de s'inviter à la grande table de la consommation qui est le mode d'expression d'appartenance à la société. Et donc on voit des caristes, des mères célibataires et ces fameux périurbains qui sont les premiers à s'être mobilisés parce qu'ils sont les plus dépendants de la voiture et qui sont les plus fragilisés économiquement. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de quelque chose. Merci.
On est au début de quelque chose, en effet. Et puis il y a aussi le témoignage d'une détresse très bien exprimé dans le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre pour cette discussion. Je renvoie à vos livres. Jérôme Fourquet, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil. Jacques Lévy, vous avez donc coécrit avec Jean-Nicolas Fauchil et Anna Pauvoiras, Théorie de la justice spatiale, géographie du juste et de l'injuste, chez Odile Jacob. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Pasolini face au monde moderne. Mes invités seront René de Secatti et Olivier Rey. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.